Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. L'annonce a fait grand bruit et elle soulève le débat en France depuis la fin de la semaine dernière. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a été mise en examen. Elle, qui a quitté son poste il y a un peu plus d'un an et demi, est poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui en raison du rôle joué dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Alors cela pose de nombreuses questions. D'abord celui de la question de la séparation des pouvoirs. Quand doit débuter l'action de la justice sur le politique? Comment garantir un traitement transparent? On va évidemment évoquer la CJR, la Cour de justice de la République, qui est composée d'une majorité de politiques, mais qui, aujourd'hui, constitue la seule instance habilitée à juger des ministres pour des faits accomplis pendant leur mandat. Bienvenue dans le débat du jour.
RFI.
Et nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Cécile Bargue, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Je vais citer l'ouvrage que vous avez écrit, Juger les politiques, la Cour de justice de la République. Face à vous, Élise Van Beneden, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate et présidente d'Anticor, Anticor qui est une association anticorruption française. Et puis en ligne avec nous, Bertrand Mathieu. Bonsoir, Bertrand Mathieu.
Bonsoir.
Professeur de droit constitutionnel à l'école de droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Je vais également citer l'un de vos ouvrages parce qu'il rentre pile dans le débat lui aussi. Justice et politique, la déchirure pour l'interrogation. Alors merci à vous trois d'avoir accepté d'abord l'invitation d'RFI dans le débat du jour. Première question, Cécile Bargue, est-ce que l'annonce de la mise en examen d'Agnès Buzyn, donc l'ancienne ministre de la Santé, est-ce que ça vous a surpris?
Non, aucunement.
Pourquoi ?
Non, pas du tout, parce qu'il suffit de connaître un tout petit peu l'histoire de la Cour de justice de la République pour savoir que c'est une Cour de justice qui a été précisément créée pour ce type d'affaire, enfin une affaire relativement semblable, déjà un peu ancienne, qui date de 1993, qui était l'affaire du sang contaminé. Et on est là encore, à nouveau, face à une tragédie ou à un drame sanitaire qui met en cause le ministre et l'action ministérielle dans son ensemble.
Donc c'est davantage le principe, je dirais, que les faits, cette mise en examen, davantage que, je veux dire, les faits qui sont reprochés. C'est le principe de la mise en examen, c'est le principe du fonctionnement de la Cour de justice de la République qui veut qu'Agnès Buzyn soit mise en examen.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que les juges, enfin en l'occurrence les magistrats et ceux qui appartiennent à la commission des requêtes avaient tout à fait le droit d'examiner et le devoir d'examiner cette plainte et éventuellement de la mettre en examen s'ils considéraient qu'il y avait des indices suffisamment graves et concordants de la commission d'une infraction, puisque c'est le rôle de la Cour de justice de la République. Reste à savoir si c'est un bon système, et là, je serai évidemment...
Alors, c'est le débat, évidemment. Est-ce qu'on peut rappeler, justement, le fonctionnement, la composition de cette Cour de justice de la République? Vous avez dit qu'elle a été créée en 1993, donc après, effectivement, l'affaire du sang contaminé.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une juridiction qui est prévue par la Constitution, à l'article 68-1 de la Constitution, qui n'est compétente que pour les ministres et secrétaire d'État pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Alors c'est une juridiction qui se réunit assez peu. En 25 ans d'existence, il y a eu 8 décisions qui ont été rendues par la Cour de justice de la République et qui sont de deux types. Vous avez d'une part des affaires qui mettent en cause précisément des décisions ministérielles, une politique menée par un ministre, des décisions de ministre, ça c'est l'affaire Buzyn, le sang contaminé, l'affaire Lagarde dans un certain sens. Et puis vous avez des affaires qui ont été jugées par la Cour de justice de la République qui sont davantage des affaires qui relèvent du droit commun, des faits de criminalité gouvernante. C'est l'affaire Pasqua qui mettait en cause des rétrocommissions, des affaires de corruption. Donc la CJR se saisit de ce type d'affaires parce qu'elles concernent des ministres et qu'elles sont en lien peu ou prou avec les fonctions.
Alors, je vais passer évidemment la parole aux autres intervenants de ce débat, mais c'est important de partir pour bien comprendre comment fonctionne cette CJR, c'est important d'expliquer sa composition, parce que majoritairement, elle est composée de politiques. Il y a 12 parlementaires et 3 magistrats. C'est un fonctionnement très particulier.
C'est un fonctionnement très particulier, une structure de la formation de jugement qui est effectivement très particulière, qui donne la part belle aux parlementaires, de sorte que ça pose d'ailleurs un certain nombre de difficultés au moment du jugement, on pourra y revenir. Une autre particularité de cette juridiction, c'est qu'elle est en amont de la formation de jugement, vous avez un filtre qui est opérée par une commission des requêtes, composée aussi de magistrats, mais aussi de membres du Conseil d'État et de deux membres de la Cour des comptes. Et puis une instruction qui, elle, est plus classique et qui est faite exclusivement sur le fondement du droit pénal, plus ou moins de la procédure pénale, par des magistrats professionnels.
Oui, effectivement, l'instruction est gérée majoritairement par des magistrats. Élise Van Beneden, alors là, on a un petit peu comme ça compris la CJR. C'est important parce qu'effectivement, la Cour de justice de la République, c'est elle qui a mis en examen Agnès Buzyn, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, c'est la seule instance habilitée à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous pose la même question que j'ai posée à Cécile Vargue. Oui. Est-ce que ça vous a étonné, l'annonce de la mise en examen de l'ancienne ministre de la Santé ?
Non, ça ne m'a pas étonné, ça m'a fait réfléchir, parce que c'est vrai que l'association Anticorps, on travaille sur des atteintes à la probité. Et là, on est dans un domaine où finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des négligences. Nous, on est habitués à travailler sur des infractions pénales, elles sont qualifiées ou elles ne le sont pas. La mise en examen sur une infraction comme la mise en danger d'autrui est très intéressante parce que, justement, on se demande si il y a vraiment des erreurs qui peuvent être trouvées dans ce dossier.
Donc c'est légitime.
Et tout est légitime. Là, si vous voulez, on a parlé de la composition de la Cour de justice de la République. Monsieur Dupond-Moretti a été mis en examen, lui aussi, au mois de juillet. Et effectivement, là, on en est à une étape, en fait, où les seuls juges qui sont intervenus dans le cadre de la Cour de justice de la République sont des juges professionnels, donc des juges indépendants, constitutionnellement indépendants. La formation politique, elle vient après. C'est-à-dire qu'il y a une mise en examen. Après, s'il y a lieu, il y a un renvoi, ce qu'on appelle un renvoi en correctionnel, sauf que là, on renvoie devant une composition de jugement. Et c'est cette composition de jugement, qui pour l'instant n'est pas intervenu dans le dossier de Mme Buzyn, ni dans le dossier de M. Dupond-Moretti, qui, elle, pose problème, parce que sur 15 personnes amenées à juger, il y en a 12 qui sont des parlementaires. Donc là, c'est le politique qui juge le politique. Et effectivement, on peut remettre en cause ce fonctionnement de la CJR pour une question assez... pour plusieurs questions, d'ailleurs, qui sont l'égalité devant la loi. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, donc c'est pas normal qu'il y ait une juridiction d'exception pour juger les ministres. C'est une anomalie démocratique majeure. Il se trouve qu'elle est inscrite dans la Constitution.
Surtout si cette juridiction, évidemment, c'est le cœur de notre débat, est majoritairement composée de politiques.
Oui, et en plus, c'est les politiques qui jugent les politiques. Donc, vous verrez, la composition de la formation de jugement actuellement, il y a finalement peu de personnes qui viennent de la REM, du parti auquel appartiennent les deux personnes qui ont été mises en examen récemment.
Agnès Buzyn, donc, et Éric Dupond-Moretti, je précise, c'est le garde des Sceaux.
Voilà. Donc, on verra ce que donne finalement cet aspect politique de cette formation de jugement, sachant que ce n'est pas forcément le même parti politique, mais que ce soit avantageux, désavantageux ou ce qu'il faudrait, c'est que ce soit parfaitement neutre. Normalement, un tribunal est impartial et donc il ne doit pas y avoir de préoccupations partisanes lorsqu'on juge une personne.
Bertrand Mathieu, la Cour de justice de la République n'est pas parfaitement neutre, comme le dit Élise Van Beneden.
Oui, moi je reprendrai le problème un peu différemment en disant que cette mise en examen ne m'a pas... fondamentalement surpris, mais qu'en revanche, de mon point de vue, elle illustre une dérive, une véritable dérive qui est en fait l'intervention de la justice dans le cœur de l'action politique. On l'a vu avec Madame Lagarde, on y reviendra, qui a été poursuivie pour imprudence. Or, savoir si une décision politique est prudente ou imprudente, c'est le cœur de l'action politique. Ça a été vrai pour M. Dupond-Moretti et c'est encore plus vrai pour Mme Buzyn où en fait le juge va apprécier sous couvert d'une infraction pénale, en l'espèce la mise en danger d'autrui, une décision qui est de nature politique. Donc je crois que l'on a, de mon point de vue, une dérive où le juge se fait non pas le juge d'une infraction de droit commun, et ça a été rappelé au départ, je crois qu'il faut distinguer ce qui est infraction de droit commun, par exemple la fraude fiscale, ou ce qui relève de la décision politique, c'est-à-dire par exemple le choix d'une politique sanitaire.
Ça veut dire qu'on ne peut pas juger ces choix justement, et on peut pas, la justice ne peut pas les juger concernant les politiques.
Non, mais le problème qui se pose, c'est que théoriquement, la responsabilité d'un ministre sur la politique qu'il a conduit est une responsabilité de nature politique devant le Parlement ou devant ses électeurs. Il est vrai que cette responsabilité politique joue de moins en moins bien. Et en fait, c'est aujourd'hui le juge qui prend la place du politique pour engager la responsabilité des ministres. Et j'ajouterais qu'en fait, je me placerai un petit peu dans une position différente de votre interlocutrice précédente. Moi, ce qui me choque dans la Cour de justice de la République, c'est pas sa composition. Ce qui me choque, c'est que des juges puissent décider de la mise en examen d'un ministre au regard de la politique qu'il conduit. Et le principe d'égalité est un principe qui n'a pas nécessairement à jouer. Le principe d'égalité ne s'applique que s'agissant de situations identiques. Or, le ministre qui conduit une certaine politique n'est pas dans la même situation qu'un citoyen qui commet une infraction de droit commun. En revanche, un ministre qui commet une infraction de droit commun est dans la même situation qu'un citoyen qui commet une infraction de droit commun.
Mais comment les politiques peuvent se juger eux-mêmes ?
Non, les politiques n'ont pas à se juger eux-mêmes, mais l'action politique relève...
Si la responsabilité ne peut pas être devant la justice, elle se trouve où, si elle doit être politique ?
Elle est politique.
Elle est politique, mais comment ça se traduit concrètement ?
Ça se traduit par des commissions d'enquête parlementaires. Démission. Ça pourrait se traduire par la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Ça peut se traduire par le résultat des élections. Lorsque l'on est dans le cœur de l'action politique, la responsabilité est de nature politique.
Donc c'est un manque de courage politique, finalement, d'une certaine manière. Après, je vais passer la parole à Cécile Barthes qui me fait des signes parce qu'elle souhaite réagir. Mais c'est un manque de courage de la classe politique aujourd'hui de transférer comme ça vers la justice, vers cette CJR qui est en contestée.
Les politiques ont leur large part de responsabilité parce que, en fait, c'est lié au dysfonctionnement de la responsabilité politique. Et le juge, en fait, s'engouffre dans ce vide qui est celui résultant de ce dysfonctionnement institutionnel. Mais je crois que c'est très dangereux parce que, de plus en plus, le juge va être amené à apprécier une décision qui est éminemment de nature politique.
Cécile Bargue.
Oui, je crois que c'est ce que vient de dire mon collègue Bertrand Mathieu est tout à fait juste. C'est-à-dire que ce n'est pas la composition de la juridiction qui pose problème. Ce qui pose des difficultés dans la Cour de justice de la République, c'est l'usage d'abord du droit pénal pour essayer de saisir des actions qui sont des actions ministérielles, pour essayer de déterminer si un ministre a bien ou mal agi dans le cadre de ses fonctions. On peut parfaitement considérer que tel ministre n'a pas été compétent. Mais ça, c'est une question politique qui relève effectivement, comme on l'a très bien dit, de la responsabilité politique. Et puis d'autre part, ce qui pose aussi difficulté, c'est qu'on érige des magistrats en censeurs d'une action politique, alors même que par définition, ils n'ont pas nécessairement d'expérience de la gestion des affaires publiques, des contraintes de cette gestion également, des contraintes politiques, des contraintes diverses et variées, et qu'enfin, ils n'ont pas de légitimité démocratique pour se prononcer en lieu et place des représentants du peuple, c'est-à-dire en lieu et place d'un mécanisme de responsabilité politique.
On touche là à la séparation des pouvoirs, clairement ?
Dans un sens, on touche effectivement à la séparation des pouvoirs. On touche surtout, comme l'a très bien dit mon collègue, à cette substitution, à cette responsabilité pénale qui vient combler les vides laissés par la déshérence de responsabilité politique.
Élise Van Beneden, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a une déshérence du politique au détriment de la justice, du coup, qui fait ce qu'elle peut ?
Si on regarde la question de la responsabilité du politique, effectivement, il y a une responsabilité qui est dite politique ou une responsabilité qui est dite juridique, voire judiciaire. Et en fait, effectivement, tous ces procès qui commencent, et c'est d'ailleurs le but de l'action d'Anticor, c'est de colmater cette brèche, cette évolution de la société. À Anticor ?
Alors, justement, dans ces actions liées à cela ?
À Anticor, là, actuellement, on a 135 plaintes en cours contre des élus ou des responsables politiques pour des infractions dites à la probité, c'est-à-dire corruption, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, concussion, trafic d'influence. Donc nous, on travaille sur ces infractions-là et on porte plainte contre ces responsables politiques, lorsque la justice ne se met pas en route. Parce qu'on a en France quand même des conditions qui sont assez spéciales, c'est-à-dire qu'on a... On a des procureurs qui sont hiérarchiquement soumis aux gardes des Sceaux, donc dont dépend en partie leur carrière. On a un procureur qui agit sous le principe de l'opportunité des poursuites, ça veut dire qu'il peut classer sans suite. Et s'il classe sans suite, comme dans les infractions de corruption, il n'y a pas de victime en soi. Les citoyens ne peuvent pas se considérer globalement victimes des infractions de corruption. Et ben, il y a des associations qui ont le statut de victime, qui elles peuvent aller prendre le dossier sur le bureau d'un procureur et l'apporter sur le bureau d'un juge d'instruction
qui est
constitutionnellement indépendant. C'est ce que fait Anticor. Et sur cette question donc de double aspect de la responsabilité, il y a une très forte réalité, c'est une évolution de la société, du monde politique ces dernières années, qui était qu'avant, on avait quand même un système où, quand un ministre était mis en cause, il démissionnait. Je crois que le dernier, c'est monsieur de Rugy qui a démissionné. Et on a un changement de langage, finalement, depuis, où maintenant, on entend des personnages politiques dire « j'assume ». Voire « venez me chercher », pour une phrase assez, assez connue. Et du coup, c'est vrai que la responsabilité judiciaire a remplacé un peu cette responsabilité politique. Si vous n'avez plus de responsabilité politique, évidemment, vous avez une responsabilité judiciaire qui se développe. Mais ce n'est pas forcément mal. C'est-à-dire que le rôle de la justice aussi, c'est de venir régler des problèmes humains et sociaux. Donc la possibilité... de faire ses plaintes, probablement, permet aussi de garder une certaine paix sociale.
Et tout cela écorne aussi l'image de la justice. Quand, je pense par exemple à l'affaire Fillon, François Fillon, l'ancien candidat à la présidentielle. Mis en examen, évidemment, je ne me présenterai pas, il s'est présenté. Alors il a été sanctionné, il a été éliminé au premier tour de cette présidentielle. Mais... mis en examen, malgré tout, il continue. Enfin, on vire au bras de fer un peu entre politique et justice. C'est aussi
Mais
ça le danger.
Ça dépend si vous considérez que la justice est un pouvoir, ou autre. Il se trouve que la Constitution parle d'une autorité, mais on est quand même dans une démocratie sur un système de séparation des pouvoirs.
Oui.
Et ce que dit Montesquieu, c'est qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans ce bras de fer, peut-être, où c'est la justice qui arrête le pouvoir. Mais si vous voulez, il y a la question de la séparation des pouvoirs, mais il y a aussi la question de l'égalité devant la loi. Et il n'y a pas de texte qui protège les ministres contre des poursuites pour des infractions pénales. Ils ont une juridiction spécialisée, mais je veux dire, ce sont des citoyens. Et quand la juridiction se met au travail et que des juges indépendants estiment, comme vous le disiez, qu'il y a des indices graves ou concordants de la commission d'une infraction, bah, c'est quand même normal que la justice fasse son travail.
Bertrand Mathieu, vous êtes en ligne avec nous. Et notre réalisateur me dit que vous souhaitez vivement réagir. On vous écoute.
Je voudrais réagir. L'affaire du ministre de la Justice me paraît une affaire extrêmement révélatrice. On est dans une hypothèse où...
Vous parlez d'Éric Dupond-Moretti.
Absolument. On est dans une hypothèse où un certain nombre de syndicats de magistrats prennent d'emblée position contre le ministre. On se trouve dans un deuxième temps où, à tort et à raison, le ministre est mis en cause pour, en fait, un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts qui tient à ce que, étant avocat, il s'est plaint du comportement d'un certain nombre de magistrats contre lesquels sont engagées ensuite des procédures. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le procureur général près de la Cour de cassation, qui est aussi procureur général auprès de la Cour de justice, intervient dans la presse pour critiquer la position du ministre. Et ensuite, il est mis en examen par un organe dans lequel intervient le procureur général près de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un bras de fer qui tient au fait que on met en cause le ministre de la Justice sous le motif d'un conflit d'intérêts et que le juge lui-même, qui le met en examen, se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Et là, en fait, on a un bras de fer entre la justice qui ne veut plus de son ministre et le ministre qui reste en place. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait jusqu'à présent une tradition, qui n'est qu'une tradition, qui avait été mis en place par M. Bérégovoy et ensuite par Édouard Balladur, qui voulait qu'un ministre mis en examen soit contraint à démissionner. Mais là, c'était une situation qui est, j'allais dire, à peu près intenable. Ça veut dire qu'un juge d'instruction peut modifier la composition du gouvernement. Je vais prendre un exemple à l'inverse. M. Darmanin a été mis en cause dans des affaires de mœurs. On a très largement,
le ministre de l'Intérieur.
Dans certaines presses, ministre de l'Intérieur, protester contre le fait qu'il n'ait pas démissionné ou qu'il n'ait pas été conduit à démissionner. Or, en fait, il s'avère que toute action judiciaire à son encontre est éteinte. Le problème, est-ce qu'on a deux problèmes, en fait ? Le premier problème, c'est la séparation des pouvoirs. Et le deuxième problème, c'est la présomption d'innocence.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, Élise Van Beneden nous dit que finalement, les politiques sont des justiciables comme les autres ? Comment les juger ?
Mais les politiques sont des justiciables comme les autres dans le cadre des délits de droit commun qu'ils peuvent commettre, par exemple la fraude fiscale. Les gouvernants ne sont pas des justiciables comme les autres dans le cadre de l'action politique qu'ils mènent sous le contrôle du Parlement, tout au moins en théorie, et à la suite d'une élection.
Attendez, Bertrand Mathieu, est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'Agnès Buzyn, par exemple ? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu de faille dans la gestion de la crise du Covid-19 ?
Non, mais le problème, s'il y a une faille, il y a deux questions. S'il y a eu une mauvaise gestion, c'est une affaire politique. S'il y a eu...
Oui, mais si... Pardon, je vous suis. Si y a une mauvaise gestion, c'est une affaire politique, d'accord. Mais si cette mauvaise gestion a entraîné mise en danger de la vie d'autrui, il y a de quoi juger.
Si elle a entraîné... Le problème, c'est qu'on est dans une... On est dans une infraction qui est une infraction qui touche aux politiques. Je prends le cas parce qu'il a été jugé. Je prends le cas de Madame Lagarde, qui était ministre de l'économie, et qui décide, dans une affaire, de recourir à l'arbitrage, plutôt que de s'en remettre à la justice. C'est une décision éminemment politique.
Mais s'il y a une décision au nom du politique folle, entre guillemets, je pousse l'argument loin, qui est prise, on ne peut rien faire, une décision qui serait complètement folle.
Non, mais une décision qui serait complètement folle, le problème, c'est qu'on peut identifier, on peut bien entendu identifier un crime ou un délit derrière une décision politique. Mais le problème, c'est qu'il faut bien établir une frontière. On l'a fait d'ailleurs dans la législation sur les élus locaux, ce qu'on appelle la loi Fauchon, qui a limité les hypothèses où on peut mettre en cause une action politique sous couvert de crime ou de délit. C'est là le problème. Je crois qu'il y a deux, et j'en terminerai par là, je crois qu'il y a deux éléments à mettre en exergue. Le premier, c'est bien distinguer ce qui relève du droit pénal commun, de l'infraction pénale de droit commun, et ce qui relève de l'action politique. La deuxième élément, c'est que de mon point de vue, c'est probablement au niveau de la mise en examen et de la poursuite des politiques, qu'il faudrait que la commission soit composée de magistrats et de politiques. C'est probablement là que c'est plus important, parce qu'on voit bien que de toute manière, lorsqu'un ministre est mis en examen, l'opprobre est jeté sur lui. Et comme le disait très bien ma collègue Cécile Bargue, il est très important qu'en fait, l'appréciation de l'action politique soit aussi prise en compte, appréciée, soit le fait de magistrats et de politique.
Cécile Bargue, justement, je vous donne la parole. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Clairement, il différencie, Bertrand Mathieu, les décisions qui sont d'ordre politique, les décisions qui sont de bien commun, pour juger ces politiques-là.
Bien sûr, je crois que les décisions qui relèvent de la criminalité ordinaire, Bertrand Mathieu parlait de fraude fiscale, on peut parler d'abus de biens sociaux, de corruption, etc.
On pense à, par exemple, l'affaire Jérôme Cahuzac.
Oui, et puis pour parler de la CGR, on pense aux affaires Pasqua ou autres. Eh bien, ces affaires-là devraient effectivement relever des juridictions ordinaires. Et là, on peut faire intervenir le principe d'égalité devant la loi. En revanche, ce principe ne doit pas être mis à toutes les sauces. Parce que, en effet, un ministre n'est pas... On a beau l'affirmer, mais il n'est pas dans la même situation que quelqu'un d'autre. Il prend des décisions, c'est-à-dire qu'il tranche entre intérêts conflictuels. Il tranche entre intérêts conflictuels pour déterminer une politique qui nécessairement, c'est peut-être lamentable, mais qui nécessairement va faire des mécontents et va causer des dommages. Et de ce fait, il s'agit de décisions politiques qui relèvent de la responsabilité du même nom.
Donc immunité.
C'est pas une immunité, c'est une forme de responsabilité différente qui relève du Parlement, des commissions parlementaires, des élections. Après tout, au moment où ces gens-là s'inscrivent généralement dans une carrière politique, on peut très bien ne pas les réélire, et cela arrive, et qui s'inscrit dans toute une forme de mécanisme de responsabilité politique. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que cette judiciarisation de la société, hein, qu'on voit monter en puissance, qui est un phénomène déjà ancien, qui date des années 90, mais qui est très largement monté en puissance, et qui a d'ailleurs assez largement changé de forme. Là, on est dans la massification. On en est à 16 000 plaintes devant la CJR. C'est quand même absolument colossal. On en est à des plaintes contre le SAMU, les ARS. Enfin, il y a une véritable pénalisation de la vie publique qui pose quand même des grandes difficultés, qui pose évidemment des difficultés tenant à l'encombrement des juridictions, mais aussi qui peuvent aussi encourager paradoxalement une forme d'inaction. C'est-à-dire qu'on refuse, on regrette que Mme Buzyn éventuellement n'ait pas agi, mais qui va éventuellement mettre en jeu une politique de vaccination si certains ministres devaient être poursuivis parce que, effectivement, la vaccination a créé des dommages dans tel ou tel secteur de la population. On joue, je trouve, un jeu particulièrement dangereux.
Mais est-ce que ça montre aussi toutes ces plaintes, vous avez dit, qui sont inédites, ben finalement qu'aujourd'hui, il y a une pression populaire qui joue, en fait, finalement, sur cette judiciarisation de la vie politique?
Il y a une pression populaire.
Et le risque, du coup, ben, que ça influe sur l'action politique. Et s'il y a ce risque, toujours cette épée de Damoclès d'une possible mise en examen, on va, comment dire, le principe de précaution va prendre le dessus sur le principe d'action.
Ben, il y a effectivement ce risque, et le risque pénal est certainement déjà intégré par nos politiques. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit très bien qu'à travers cette multiplication des plaintes, qui sont aussi encouragées par les réseaux sociaux, par les formulaires en ligne et tout ce genre de choses, effectivement, ça répond très certainement à une émotion collective, c'est-à-dire qu'il y a une force d'attraction du procès pénal qui apparaît comme le dernier recours lorsqu'on a le sentiment que nos gouvernants ont failli. Mais encore une fois, nous avons d'autres moyens.
Mais ce n'est pas le dernier recours.
Élise Van
Beneden. Le dernier recours, c'est la violence. Et la justice, oui, elle permet aussi d'éviter la violence. Donc moi, je pense que ce ne sont pas des mécanismes qu'il faut forcément critiquer. Ce que j'ai entendu tout à l'heure au sujet des attentats à la probité, je suis quand même obligée de vous le dire, que j'entends des propos qui banalisent les attentats à la probité, alors qu'elles sont extrêmement graves. La corruption en France, c'est 120 milliards d'euros par an. Et M. Dupond-Moretti n'a pas été mis en examen pour un conflit d'intérêts, il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts. Donc il ne faut absolument pas banaliser ces attentats à la probité, elles sont extrêmement graves.
Mais comme le dit Cécile Bargue, à force d'avoir des plaintes, il y a peut-être ce risque aussi d'une banalisation de la justice.
D'une banalisation, mais ce qu'il ne faut pas banaliser, c'est
les infractions. Sans jugement, est-ce qu'il y a ce risque-là?
J'ai entendu le discours disant il y a des infractions qui relèvent de choix politiques. Mais en fait, c'est faux, c'est pas comme ça. En fait, s'il y a une infraction, c'est à la justice de le dire. Et peu importe que ce soit dans un cadre politique ou pas.
Dans un cadre politique ou droit commun.
Il y a une question de qualification pénale.
Allez-y au bout de votre argumentaire, c'est intéressant.
Bah, écoutez, là, on prend le cas de Mme Buzyn. La mise en danger d'autrui, c'est une infraction pénale. Donc si des juges indépendants, et en l'occurrence à l'étape où on en est de la Cour de justice de la République, si des juges indépendants ont décidé de la mettre en examen, c'est qu'ils ont étudié une qualification pénale. Donc je ne vois absolument aucune raison, même dans l'action de ministre, qu'il y ait une impunité si des juges indépendants nous disent qu'il y a des indices graves et concordants de la commission d'une infraction pénale. Ce serait une rupture d'égalité énorme. Et c'est ça qui, depuis des années, alimente un sentiment d'impunité, de glace politique. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à des développements du type de tous pourris ou une abstention aux élections qui est grandissante. Parce qu'il n'y a plus de responsabilité politique. Et en plus, quand il y a une responsabilité judiciaire, c'est des procès qui durent 10, voire 15 ans.
Cécile Bargue, ce sera le mot de la fin. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a cette défiance, effectivement, ça renforce cette situation, la défiance du politique, vis-à-vis du politique.
Oui, mais enfin, je ne suis pas certaine que la Cour de justice de la République puisse véritablement encourager la confiance. Je voudrais simplement revenir sur une chose. Vous avez une formule qui à mon avis, n'est pas tout à fait juste. Enfin, elle est très belle, mais vous disiez, ce sont des infractions qui relèvent de choix politiques. Mais ce ne sont pas des infractions qui relèvent de choix politiques. Madame Buzyn n'a pas voulu commettre une infraction. Il n'y a pas d'intentionnalité. Ce qu'il y a, c'est une décision ministérielle qui est saisi par le droit pénal à travers l'extraordinaire élasticité du droit pénal et des infractions type mise en danger de la vie d'autrui. On peut mettre un peu tout et n'importe quoi.
Eh bien, merci. En tout cas, c'était un débat vif et très intéressant avec des prises de position différentes. Merci Cécile Bargue, professeure de droit public à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Merci à Élise Van Beneden, avocate et présidente d'Anticor. Merci à vous Bertrand Mathieu, en ligne avec nous, professeur de droit constitutionnel à l'École de droit à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Florence Ponce qui m'a aidé à préparer ce débat, à Laurent Philippot qui l'a réalisé. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques secondes, c'est RFI Soir.
Ici l'Europe.